Les livres d'histoire sont remplis de noms d'individus qui, d'une manière ou d'une autre, ont laissé leur empreinte, bonne ou mauvaise, derrière eux. Pareillement, l'Ancien Testament est marqué par des personnages illustres et dignes de louange et par d'autres qui ont fait la une des journaux à cause de leur fourberie, leur méchanceté ou leur rébellion contre Dieu. Dans cet ordre d'idées, Pierre accuse les imposteurs religieux de son siècle de marcher sur les traces d'un certain Balaam qui, dit-il, aimait l'argent mal acquis, l'argent sale en quelque sorte. Je continue à lire dans le second chapitre de la deuxième épître de Pierre. Mais Balaam a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de sa démence. Verset 16. Balak, roi du royaume de Moab, est effrayé par l'arrivée des tribus d'Israël aux portes de son pays. Il envoie donc des émissaires auprès de Balaam, prophète de l'Éternel, pour lui dire « Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Mais Dieu n'est pas d'accord et il dit à Balaam « Ne va pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple. » car il est béni. Ce prophète est un insensé, tordu et aveugle, car malgré le commandement de Dieu, qui ne pourrait pas être plus clair, il est prêt à le transgresser et à faire n'importe quoi pour s'enrichir un peu plus, pour ajouter un autre million à sa fortune déjà considérable. Il parlemente donc avec les princes du royaume de Moab et argumente avec Dieu qui, assez curieusement, finit par céder. Voilà donc Balaam en route avec les émissaires de Moab qu'il suit de loin. Il les accompagne pour se rendre sur des sommets élevés d'où il pourra voir le camp des Hébreux, embrasser du regard les 12 tribus d'Israël et les maudire puisqu'il en a le pouvoir. S'il réussit malgré l'interdit de Dieu, il touchera une forte somme d'argent pour ses services. Balaam était monté sur son ânesse, son moyen de transport habituel, quand tout à coup, dit le texte, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre deux murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à la battre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par trois fois ?» Balaam lui répondit « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours ?» Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi? Et il répondit, non. Fin de citation. C'est en faisant parler cette ânesse que Dieu a détourné le prophète de sa démence. Ce dernier mot signifie littéralement hors de son esprit. Autrement dit, Balaam, qui avait un coffre déjà bien garni, est tellement obsédé par le désir de posséder toujours davantage de richesses qu'il est devenu fou. Hors de lui. L'Éternel lui avait dit plusieurs fois de ne pas maudire Israël, mais ce prophète ne se maîtrisait plus. L'argent était son idole et elle le contrôlait, ce qui l'a conduit à se comporter en insensé. Quand l'ânesse a parlé, Balaam s'est comporté comme si cette façon de faire de l'animal était normale, il n'a montré aucune surprise, tellement son esprit était occupé par la tâche qu'il attendait, ou plutôt par les pièces d'or qui dansaient devant ses yeux. Après cet incident, Balaam a dû mordre la poussière. Dieu l'a forcé à bénir Israël à 3 reprises et a donné plusieurs prophéties, dont le jugement des nations voisines d'Israël, Moab inclus, ainsi que la venue du Christ qu'il appelle l'astre qui monte de Jacob. Bien qu'il soit devenu apostat, Balaam était toujours prophète de l'Éternel. Après ces événements, et n'ayant pas pu maudire les Israélites, ce faux jeton est rentré chez lui, mais pas avant d'avoir touché son sale fric. Il l'a obtenu en suggérant aux Moabites une autre façon d'attirer la malédiction de l'Éternel sur le peuple élu. Il leur a dit d'utiliser leurs femmes plantureuses pour aguicher les Israélites afin qu'ils s'engagent avec elles dans des relations sexuelles illicites. Un texte dit « Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Le plan machiavélique de Balaam a marché comme sur des roulettes et le peuple d'Israël tomba dans la débauche et l'idolâtrie, ce qui lui valut de subir un châtiment sévère de la part de Dieu. Un autre passage explique « Israël demeurait à Shittim et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu » et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Depuis cette sinistre affaire, les Écritures désignent Balaam comme le chef de file des faux prophètes, et il a fait beaucoup d'émules. Tous les enseignants de mensonges d'antan et d'aujourd'hui ont certains points communs. Ils fonctionnent d'une manière despotique, et ne rendent jamais de compte à quiconque, à quoi bon, puisqu'ils ont raison. Ils dénoncent avec force toute personne qui oserait mettre en doute leur autorité. Ils méprisent la saine doctrine fondée sur des faits historiques et les Écritures, mais ils aiment les nouveautés et tout ce qui est à la mode. Ils enseignent leur propre vision des choses, des tromperies édulcorées qui flattent l'homme dans sa vanité, et qui plaisent aux appétits charnels de ceux qui les écoutent. Indépendamment des divinités qu'ils représentent, les fondateurs de sectes et les gourous ont au moins 2 caractéristiques communes. Ils s'enrichissent sur le dos de leurs adeptes, qu'ils tondent un maximum, et ils profitent des femmes. Il s'ensuit que cette mauvaise graine est relativement facile à reconnaître. Je continue l'épître de Pierre. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Verset 17. Dans la tradition juive, l'eau symbolise la vie et son absence est source de mort. Jésus aussi a utilisé l'eau comme métaphore. Il a promis à ses disciples « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Par contraste, les malfrats religieux sont secs comme un coup de trique. Comme ils se présentent en tant qu'enseignants de la parole de Dieu, on attendait de ces personnes au minimum un verre d'eau ou une petite pluie rafraîchissante. Mais au mieux, ils n'ont rien à offrir, et au pire, ce sont des instruments de mort, car ils entraînent d'autres avec eux dans le gouffre éternel. En apparence, ils ont fière allure et forte prestance, mais il leur manque l'essentiel, la parole de vie. Voilà pourquoi Pierre les traite de fontaines sans eau. En été, quand il fait très chaud et que je suis en ville ou dans un village, je cherche toujours un point d'eau. Quelquefois, on rencontre encore de ces fontaines grises ouvertes qui sont actionnées en tournant une sorte de volant. mais rien qu'à les regarder de loin, on ne peut pas savoir si elles sont encore en état de fonctionnement, sauf bien sûr s'il y a des flaques d'eau à proximité. Le plus souvent, il faut donc s'approcher et essayer le mécanisme. Mais souvent, avec le temps, il a rouillé ou alors la source d'eau a tari, et on est déçu. C'est un peu le même scénario pour celui qui vit sur une terre aride aux abords de la Méditerranée. Quand il aperçoit des nuages poussés par une tempête, il croit qu'ils annoncent une ondée. Cependant, il arrive fréquemment que de tels nuages se comportent comme un mirage et se dissipent avec la chaleur du jour sans avoir abreuvé la terre de leur pluie bienfaisante. Les imposteurs religieux promettent mais sont sans substance parce que ce sont des émissaires du diable. Malheureusement, cela ne les empêche pas d'avoir un impact très négatif sur les assemblées qu'ils noyautent à cause de la nature trompeuse de leur enseignement et la vulnérabilité de leur proie. Ils sont dangereux parce qu'ils ont des talents d'orateur. Ils savent comment persuader leurs victimes de leur bonne foi, mais au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qu'ils sèment sur leur passage. Je continue le texte. Avec leur discours grandiloquent, mais creux, les faux enseignants cherchent, pour satisfaire leur désir tout humain, à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes, vivant continuellement dans l'erreur. Verset 18. Littéralement, Pierre dit « Ils font un bruit enflé de vanité futile », ce que la Bible de Jérusalem traduit par « discours gonflé de vide », qui dit bien ce que ça veut dire. Les enseignants de mensonges aveuglent leurs victimes en leur jetant de la poudre aux yeux. Ils possèdent souvent un charme et un charisme qui font glousser une certaine catégorie de femmes et ils donnent invariablement l'impression de posséder sagesse et connaissance grâce à leur verbosité flamboyante et à leur rhétorique ronflante. Ils trompent leurs disciples en leur faisant croire qu'ils ont fait des études théologiques pointues, qu'ils possèdent un grand discernement des réalités spirituelles et même qu'ils détiennent leur révélation de Dieu. Aujourd'hui, dans la chrétienté, c'est le grand bazar. Les discours ronflants, gonflés de vide et enflés de vanité, ne manquent pas. On a au choix le vocabulaire fleuri du ritualisme, les doctrines obscures des sectes et les arguments académiques des théologiens d'obédience libérale. Il y en a pour tous les goûts. Ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant continuellement dans l'erreur sont des personnes mal affermies dans la foi, ce que j'ai déjà eu l'occasion de préciser. Ce sont des jeunes croyants d'origine païenne qui n'avaient connu que partous et orgies avant d'entendre parler de Jésus et de la grâce de Dieu. Nouvellement convertis, ils sont, pour les enseignants de mensonges, des proies relativement faciles à séduire et attraper, car pour eux, retomber dans leurs anciens vices est une démarche naturelle qui répond à de vieux automatismes bien rodés. Les appâts qu'utilisent les imposteurs religieux ne peuvent être efficaces qu'envers des gens qui ignorent l'enseignement des Écritures. Car envers ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils auraient autant de succès que quelqu'un de 200 kilos qui essaierait de vendre une méthode pour maigrir. Je continue le texte. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 19. Pour les malfrats religieux, la liberté consiste à s'affranchir de toute contrainte morale et de tous ses tabous, ainsi que du jugement divin, probablement en se moquant de cet enseignement dispensé par les vrais apôtres. Mais en réalité, ce libertinage ne peut que déboucher sur l'esclavage. Jésus a dit « Vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Il existe plusieurs formes d'esclavage. Appartenir à quelqu'un d'autre en est une, mais avoir sa volonté subjuguée par une autre personne, une idée ou un produit toxique en est une autre. Je continue. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Verset 20. Les enseignants de mensonges qui commençaient tout juste à s'introduire dans les assemblées chrétiennes étaient des gens religieux. Ils avaient confessé leur foi en Jésus et convaincu beaucoup de jeunes croyants qu'ils étaient des maîtres spirituels éclairés et agréés par Dieu. Autrement, ils n'auraient jamais pu infiltrer l'Église avec une telle efficacité. Initialement, ils s'étaient arrachés aux influences corruptrices du monde. Ici encore, Pierre utilise le mot qui a donné « miasme » en français et qui veut dire « souillure, émanation putride » qui provient de substances en décomposition. Voulant échapper à la pollution morale de leur milieu, ces hommes avaient été attirés par les valeurs éthiques du christianisme et par la personne du Sauveur. Ayant trouvé dans l'Église un refuge contre les valeurs empoisonnées de leur monde, ils avaient entrepris une réforme morale au moyen de la religion, mais elle était superficielle et temporaire. N'étant pas passés par une vraie repentance, ils étaient dépourvus d'une foi authentique. Avec le temps, ils se sont lassés des valeurs chrétiennes et sont retournés au libertinage et à l'amour de l'argent, leur première et finalement leur seule véritable valeur dans la vie. Le vrai croyant est celui qui se détourne résolument d'une vie de péché et qui persévère dans la foi. L'apôtre Jean écrit « Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements ». Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dès que les imposteurs religieux embrassent à nouveau les pratiques païennes, dans la foulée, ils abandonnent aussi le semblant de foi qu'ils avaient en Jésus. Les deux vont de pair. Parmi eux, certains deviennent même des adversaires acharnés du Christ et de ses disciples. Je continue le texte de Pierre. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Verset 21. Les enseignants de mensonges d'antan et d'aujourd'hui sont des morts vivants. Ils sont spirituellement morts, mais ont revêtu l'apparence de la vie. Ce sont des cadavres qui, après avoir été partiellement exhumés de la corruption de la société romaine, sont entrés dans les assemblées chrétiennes. Puis, tels des caméléons, ils ont pris l'aspect des vrais croyants et parlent comme eux. Habillés de leur fausse justice, dans un premier temps, ils prospèrent. En bon hypocrite, tout comme Judas, ils donnent le change même à leur entourage intime. En définitive, ils se servent de l'Église pour arriver à leur fin égoïste et, par leur pouvoir de séduction, ils cherchent à entraîner un maximum de personnes dans leur chute, conformément au programme des puissances des ténèbres. L'apôtre Paul écrit « L'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » Selon les Écritures, la condamnation du pécheur est d'autant plus sévère qu'il agit en connaissance de cause. Celui qui sait ce que Dieu attend de lui et qui refuse obstinément de lui obéir s'endurcira progressivement jusqu'à ce qu'il devienne imperméable à la grâce de Dieu. À cause de cette rébellion à point levé, il subira un châtiment exemplaire. Jésus a dit « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Les bonnes gens qui vivent selon un code moral strict échappent à la pollution libertine et mondaine, mais leur façon de vivre n'affecte pas la corruption de leur cœur. La pratique d'une religion est peut-être un antidote au laxisme moral de notre époque, mais souvent c'est aussi une sorte de bouclier contre l'Évangile. Si quelqu'un écoute ces émissions et n'accepte pas Jésus comme son sauveur, alors je suis son pire ennemi, parce qu'ayant entendu le message de la bonne nouvelle, il ne pourra jamais dire à Dieu qu'il ne savait pas. Celui qui ne veut pas entendre la bonne nouvelle de Jésus, ou si, l'ayant entendu, refuse de l'accepter, se place dans une situation particulièrement périlleuse. Il est beaucoup plus mal loti que n'importe quel indigène de la brousse, serait-il chasseur de tête ou cannibale. Il vaut mille fois mieux, en effet, ne jamais avoir entendu parler de Jésus que d'avoir compris qui il est et de l'avoir rejeté.